Religion du monde. Geneviève Delru.
J'y vois ça comme une bénédiction, dans la mesure où cette visite est très importante entre deux chefs d'État et en même temps deux chefs religieux, et elle s'inscrit dans la continuité de celle qui a été faite par le pape Jean-Paul II. Et je trouve très important qu'au Maroc, il puisse y avoir une présence chrétienne et que la présence chrétienne puisse, je dirais, vivre tranquillement et croire tranquillement et avoir des lieux de culte.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le pape François, 34 ans après la visite historique de Jean-Paul II, est au Maroc. Et comme vient de le souligner l'islamologue d'origine marocaine Rachid Benzine, cette venue est très importante. Car il s'inscrit non seulement dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, mais le pape visite un pays où les chrétiens, avec l'arrivée de migrants d'Afrique subsaharienne, et pour une partie d'entre eux leur installation définitive, sont plus nombreux qu'en 1985. Alors il vient rencontrer une communauté dynamique. C'est ce que nous allons entendre avec le reportage de Théa Olivier, correspondante de RFI au Maroc. Théa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes allée la semaine passée à la cathédrale de Casablanca à la rencontre de ces fidèles catholiques qui se préparaient à la messe que le pape doit célébrer ce dimanche après-midi au stade du prince Moulay Abdallah avant de repartir à Rome. Et on attend entre 7000 et 10000 fidèles. Alors, cette communauté de chrétiens subsahariens s'est manifestement beaucoup investi dans la préparation théâtre de cette messe du pape.
Oui, cette communauté se prépare depuis des semaines à la venue du pape. À la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Casablanca, les choristes ont répété les chants de messe tous les samedis et cet après-midi, ils se rassembleront avec des choristes de tout le royaume au stade. Ils seront 500 à chanter lors de la messe célébrée par le pape François. Je suis allée à l'une des répétitions à Casablanca dans la grande cathédrale blanche de béton qui date de 1954. Accompagné d'un piano et d'une guitare électrique, ils répétaient ensemble le Notre Père en arabe. Ivoiriens, Gabonais, Congolais, Camerounais. Ici à la cathédrale de Casablanca, les choristes sont de 12 nationalités différentes, pratiquement tous de pays africains. Chacun arrive avec les chants de son pays. Et pendant la répétition, j'ai rencontré Eric Obar, jeune Nigérian. Il préside cette chorale depuis plusieurs années et il disait attendre avec impatience la venue du pape François.
C'est un sentiment de joie parce qu'il y a le Saint-Père qui a pensé à l'église au Maroc. Malgré tout ce que traverse le monde et l'Église en ce moment de difficulté, je pense qu'on est content et on sera en communion avec le Saint-Père. La communauté est magnifique. Il y a des personnes extraordinaires de divers horizons. Et puis il y a un partage. Il y a aussi l'ouverture d'esprit. Il y a des gens qui sont venus avant, on les appelle les anciens, qui aident les autres. J'étais opéré cette année, par exemple. C'était des choristes qui sont venus me voir à l'hôpital, mes amis. Donc, c'est de ce genre de solidarité que je parle.
Théa, vous avez rencontré des catéchumènes, c'est-à-dire des adultes qui vont recevoir le baptême. Est-ce que c'est cette solidarité qui les a incités à se faire baptiser ?
Oui, ils seront 42 à se faire baptiser à Pâques, comme Brice, un jeune Ivoirien et étudiant à Casablanca.
Depuis mon pays, j'avais déjà commencé le cheminement. Donc, arrivé au Maroc, je me suis vraiment intégré déjà avec l'Église. Et je suis vraiment très heureux vraiment à recevoir le baptême en tant que jeune. Et aujourd'hui encore avec la nouvelle que nous attendons tous, avec la venue du pape aussi, tout ça. Donc ça me réjouit, quoi. Vraiment, je suis vraiment content au fait. Je ne pensais pas avoir une communauté comme ça ici, sachant bien que vraiment c'est un pays où, vraiment, qui est beaucoup islamisé. Donc je me disais qu'il ne devait pas avoir une grande communauté comme ça. Mais arriver ici vraiment avec l'accueil, l'hospitalité et l'Église catholique est vraiment représentée vraiment dans toute sa forme. Il y a une solidarité déjà qui se passe déjà entre les musulmans et les chrétiens. Ici les chrétiens vraiment peuvent exercer leur foi sans être empêchés par les musulmans. Donc je rends grâce à Dieu, quoi, pour cela en fait.
Ces catéchumènes sont donc de plus en plus nombreux et un prêtre béninois, Théa, que vous avez rencontré, vous a expliqué pourquoi ils vont vers l'église.
Oui, il s'agit du père Franklin, il vient du Bénin. Je l'ai rencontré lors de la catéchèse avant la messe où sont venus plusieurs centaines de fidèles.
Ce que j'ai observé,
Ces quatre dernières années, c'est le nombre de plus en plus croissant de catéchumènes que nous avons, des jeunes, des étudiants subsahariens qui viennent ici dans le cadre des études ou aussi qui ont fini leurs études, qui veulent faire une expérience professionnelle ici avant de retourner chez eux et qui, subitement arrivés ici, sentent en eux le désir de se faire baptiser. De plus en plus, le nombre de ces migrants ou de ces étudiants subsahariens dans le royaume augmente aussi chaque année. Naturellement, le nombre de ceux qui viennent à l'église augmente. Ils ne sont pas baptisés et étant sur une terre étrangère, ils ont besoin de soutien, de secours. Et l'église est cette institution qui offre ce soutien. En retrouvant ce soutien auprès de l'église, ils souhaitent aussi se faire baptiser.
Théa, comment répond l'église du Maroc à cette demande?
J'ai rencontré l'archevêque de Rabat, Mgr Cristobal López Romero, en poste depuis un peu plus d'un an. Il est arrivé au Maroc en 2003 et il est très conscient de cette réalité et s'en préoccupe pour accueillir au mieux cette communauté.
On a fait appel à des prêtres subsahariens parce que les prêtres étaient tous européens. Mais maintenant, la population chrétienne catholique est majoritairement africaine. Donc nous avons déjà 6 ou 7 prêtres qui sont venus de différents pays, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, de la République démocratique du Congo. Et eux, ils sont plus proches de ses compatriotes et peuvent comprendre mieux les enjeux de leur présence.
Théa, les migrants sont au cœur de cette rencontre du pape avec les catholiques du Maroc. D'ailleurs, dans son programme, il y avait une visite au siège de la Caritas pour une rencontre avec les migrants. Alors, qu'est-ce que vous a dit l'archevêque de Rabat à ce propos?
Eh bien, l'archevêque a mis les migrants au cœur du travail de l'Église. Il essaie d'en aider le plus grand nombre.
Alors, les migrants qui sont ici en passage parce qu'ils veulent rejoindre l'Europe sont très peu ceux qui viennent à la messe parce qu'ils sont en passage. Il reste peut-être 1 mois, 6 mois, mais c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de familles qui restent ici. Donc il y a aussi des catholiques qui restent établis déjà légalement. Le Maroc a fait des efforts qu'il faut applaudir parce qu'il a fait 2 régularisations pour accueillir les migrants qui veulent rester. Et nous, en tant que Caritas, nous faisons le nécessaire pour accueillir ces migrants qui sont en détresse. Pas tous, parce qu'il y a beaucoup, mais au moins ceux qui sont malades. Les femmes enceintes ou avec des enfants petits, les mineurs non accompagnés. Tout cela, Caritas, au nombre de 8 000 chaque année, les accueille et les aide dans la mesure du possible, sans demander quelle est ta religion, pourquoi tu es venu, où tu vas aller. Nous sommes une église samaritaine. Ça veut dire comme le bon samaritain qui a trouvé un blessé par terre et s'est arrêté pour prendre soin de lui sans lui rien le demander.
Théa, on vient d'entendre ces catholiques africains qui peuvent pratiquer leur foi librement, ouvertement, à ciel ouvert si je puis dire. Aujourd'hui, on le verra au stade. Il faut toutefois préciser que le prosélytisme est interdit par la loi au Maroc, autrement dit la conversion.
Et bien dans la loi, il est formellement interdit d'ébranler la foi d'un musulman. L'église catholique reconnue par l'État marocain a d'ailleurs une position claire à ce sujet. Elle n'accueille pas les Marocains convertis au christianisme. Pourtant, ces derniers sont tolérés par les autorités marocaines. Ils ont même été reçus par le Conseil national des droits de l'homme, institution étatique marocaine indépendante. Ces chrétiens marocains attendent beaucoup de la visite du pape. 10 jours avant sa venue, la coordination des chrétiens marocains a d'ailleurs publié un communiqué où elle appelle les autorités et le Saint-Père à discuter de la liberté religieuse. Sont évoquées les libertés de pratique, du droit au mariage autre que musulman, au rite funéraire chrétien et aussi la possibilité de donner des noms bibliques. Si la liberté de culte est inscrite dans la constitution marocaine, ce n'est pas le cas de la liberté de conscience. Une position qui pourrait être discutée pendant cette visite papale.
Merci Théa Olivier. Je rappelle que vous êtes la correspondante de RFI au Maroc. Nous allons à présent entendre deux grandes personnalités religieuses de l'Église d'Afrique. Monseigneur Nestor Désiré Nongo Aziagbia, évêque du diocèse de Bosangwa et président de la Conférence épiscopale centrafricaine. Et Monseigneur Fridolin Ambongo Bessungu, archevêque de Kinshasa. Nous les avons rencontrés lors de leur passage à Paris dans le cadre de deux manifestations. La campagne de carême du CCFD Terre Solidaire pour Monseigneur Aziagbia et la nuit des témoins de l'AED, l'aide à l'église en détresse pour Monseigneur Fridolin Ambongo. Monseigneur Désiré Nongo Aziagba a été nommé évêque du diocèse de Bosangwa en 2012, un diocèse situé au nord-ouest de la République centrafricaine, à la frontière avec le Tchad, et qui s'est retrouvé en 2012 au cœur d'un conflit politique armé très violent. Au plus fort de la crise, l'évêché de Bosangwa a accueilli 50 000 déplacés menacés par les milices de la Séléka. Dès 2013, Monseigneur Aziagbia, au risque de sa vie, a dénoncé les atrocités commises et s'est positionné en tant que porte-parole pour la paix. En 2017 et 2018, il s'est mobilisé pour la mise en place d'un processus de paix entre les différents groupes rebelles de son diocèse, permettant la signature d'accords de paix locaux entre les divers groupes armés issus de la Séléka, des Anti-Balaka et du groupe Révolution Justice. Début février, un huitième accord de paix a été signé. Comment le voit-il ?
Contrairement aux précédents accords et à l'exception du forum de Bangui, j'estime que l'accord paraphé à Khartoum et signé à Bangui le 6 février dernier est un accord équilibré qui met au cœur la victime et des mécanismes de suivi sont prévus dans l'accord même. Et les différents acteurs protagonistes ont été rassemblés avec la communauté internationale, l'Union africaine, l'ONU, qui servent de garant pour le suivi de cet accord. Dans cette perspective, je suis confiant.
Un accord, c'est un compromis, effectivement, comme vous le disiez, qui suppose la bonne foi hein, des uns et des autres. Quels compromis ont été faits et en quoi cet accord vous semble équilibré ?
Les groupes armés étaient exigeants en ce qui concerne les mesures d'amnistie. Et on voit que les mesures d'amnistie n'ont pas été prises en compte. Par contre, il y a un mécanisme de justice transitionnelle qui a été envisagé. Le président peut faire valoir ses droits constitutionnels, mais cela, c'est au terme d'un jugement en bonne et due forme. Donc, les personnes à qui on reproche quelque chose devraient préalablement passer par la case justice. À ce niveau-là, j'estime que c'est un accord qui est équilibré.
Après, il y aura un processus de réconciliation qui sera mis en place.
Le mécanisme de justice transitionnelle est prévu. Donc, après la constitution du gouvernement, il faudrait maintenant rentrer dans les petits détails pour faire vivre cet accord-là et retrouver un climat d'entente, de cohésion, de réconciliation, un climat qui permettent effectivement la sortie de cette crise et le développement de notre pays.
Est-ce que vous estimez que ce climat s'est un peu amélioré ces dernières années ou pas ?
Les tensions restent. Il ne faudrait pas les minimiser. Les groupes armés, jusqu'à présent, ne sont pas encore désarmés. Ils continuent à maintenir leur pouvoir de nuisance. Tant qu'on ne procédera pas effectivement au désarmement des groupes armés en redonnant à l'État, au gouvernement, la maîtrise du territoire national, l'insécurité restera toujours à l'ordre du jour.
Alors vous êtes une figure de ce travail de réconciliation, de pacification. Est-ce que l'on peut dire que c'est le premier rôle actuellement de la présence de l'Église en République centrafricaine ?
Face à l'absence, je dirais, de l'État, c'est l'Église qui supplée par sa présence, par ses actions, sa pastorale sociale dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, L'Église est au premier plan dans l'assistance humanitaire, l'accueil des déplacés. Nos presbytères, nos paroisses, des séminaires ont été transformés en centres d'hébergement pour les personnes vulnérables en précarité. Donc, l'Église ne se limite pas simplement à l'annonce de l'Évangile, mais elle s'engage aussi pour le bien-être de toute personne.
Vous avez perdu combien de religieux depuis 2012 hein?
Depuis le début de la crise, on compte aujourd'hui 8 prêtres qui ont été assassinés dans cette crise. Les tout derniers, c'était le vicaire général du diocèse d'Alindao et un prêtre curé d'une paroisse du diocèse.
Pourquoi ? Dans quelles conditions ?
Ils ont été assassinés lors de l'attaque du site des déplacés autour de l'évêché. Et c'est tout le site. La cathédrale a été profanée, le presbytère a été complètement ravagé. La résidence de l'évêque a été vandalisée. Dans cette attaque, on comptait plus d'une centaine de morts parmi les déplacés. Et comme je le disais, avec l'insécurité, l'Église vit l'insécurité dans sa chair autant que la population centrafricaine.
Monseigneur Nango Aziagba, on se souvient qu'au début de la crise, c'était en 2012 il me semble, ou 2013, les responsables religieux, aussi bien protestants, musulmans et catholiques, avaient fait une sorte de front commun pour dire « nous ne sommes pas d'accord face à cette violence, il ne faut pas confessionnaliser le conflit, hein, cette guerre civile n'est pas une guerre de religion ».
Au début du mois de décembre 2012, avec l'avancée des éléments Séléka, on avait constaté que certaines communautés étaient plus ou moins prises à partie. Du coup, les responsables religieux catholiques, protestants et musulmans ont mis en place une plateforme des confessions religieuses en Centrafrique. Ils se sont donné comme mission de sillonner les différentes villes du pays, afin de ne pas confessionnaliser une crise, un conflit qui est essentiellement politique à connotation économique.
Et est-ce que vous estimez que cette plateforme a limité cette guerre civile ou pas ?
Le rôle de la plateforme a été déterminant dans la gestion de la crise. Je dirais que la communauté internationale n'a pas toujours joué franc jeu avec nous par rapport à cette crise. La dimension confessionnelle de la crise, c'est une fabrication de la communauté internationale. Heureusement que la plateforme des confessions religieuses était là, solidaire, pour dire non. Le problème est ailleurs, mais pas au niveau de la religion.
Oui, vous parlez de 80% du territoire encore aux mains des groupes armés.
C'est énorme, 80%. Le gouvernement est là, mais il ne gère pas grand-chose.
Comment sortir de cette situation, 80%?
L'une des approches de sortie, c'est le dialogue. La force ne résoudra pas tout. Donc, j'espère que l'approche du dialogue avec le dernier accord de Khartoum pourra permettre au peuple centrafricain de voir le bout du tunnel.
C'est l'accord de Khartoum qui, pour vous, est la lumière, là.
Je l'espère.
Alors, Monseigneur Nango Aziagba, vous avez pris en janvier les rênes de la conférence épiscopale de Centrafrique. Comment voyez-vous votre rôle ?
Le rôle du président de la conférence épiscopale, c'est un rôle d'animation, de communion au sein des évêques qui constituent la conférence épiscopale et d'accompagnement. Je dirais des orientations pastorales qui sont prises de manière collégiale par les évêques.
Vous insistez sur le côté collégial, hein ?
Oui, c'est très très important. Parce que l'évêque n'est pas tout seul. L'évêque fait partie d'un collège, d'une communion avec le Saint-Père. Donc, les activités qui sont menées au niveau local, au niveau national, sont en lien, en communion avec le Saint-Père. Donc, nous avons intérêt à garder cette unité, cette communion au niveau national, en vue de l'exprimer avec nos frères et sœurs dans le collège épiscopal à travers le monde.
Là, on évoque le Saint-Père. Est-ce que l'avenue du pape François en novembre 2015, qui avait été quand même un voyage historique, hein, on s'en souvient, est-ce que ça a marqué sans doute évidemment les esprits, la population? Est-ce que ça a eu un rôle ou pas sur la paix?
La visite du Saint-Père en novembre 2015 en Centrafrique a été déterminante dans le processus de réconciliation qui est encore en cours et a permis l'organisation des élections apaisées dans un climat plutôt tendu en 2016. Et le lien que le pape garde avec l'Église en Centrafrique et l'État centrafricain a permis, dans la sollicitude à la vulnérabilité, surtout des enfants et des femmes, à la réhabilitation et à la construction d'un centre pédiatrique qui a été inauguré il y a une dizaine de jours. Donc, je dirais, les retombées de la visite du pape en Centrafrique sont très, très positives.
Vous êtes en France, Monseigneur, pour la campagne de Carême. Quel message comptez-vous envoyer quand vous allez aller en province, effectivement, rencontrer des catholiques?
Un message de foi, un message de courage. Nous vivons un monde où l'Église semble être attaquée de toutes parts. Et nous devons être forts, nous devons rester unis entre nous pour continuer à vivre notre foi et témoigner de cette foi en face des adversités.
Dernière question, Monseigneur. Vous évoquez la crise que traverse l'Église. On pense bien sûr à la crise des abus sexuels. Vous étiez à Rome en février pour le sommet donc sur la protection des mineurs. Vous avez été marqué par les témoignages des victimes. Vous êtes reparti comment de Rome? Est-ce que vous aviez conscience de cet état de fait, de cette crise des abus sexuels?
Les abus sexuels, c'est une attaque contre des jeunes, des personnes vulnérables qui sont confiées à notre charge pastorale, qui nous font confiance. Et en tant que membre d'un institut de vie apostolique ou par principe des protocoles de protection, nous avons produit des protocoles de protection. Donc, c'est un sujet sur lequel je suis personnellement informé, des dispositions sont prises. Ça reste un sujet douloureux à débattre au sein de l'Église, au sein de nos communautés. Sortons de la conférence organisée par le Saint-Père à Vatican, j'ai cette conviction. Le courage du Saint-Père de rassembler l'Église, ses responsables, à prendre à bras le corps un sujet qui fait problème au sein de la société aujourd'hui et mettre en place les mécanismes pour arrêter ce fléau, cette plaie qui gangrène l'Église. Même si au niveau statistique, le fléau est estimé à un infime pourcentage au sein de l'Église, mais avoir le courage d'en parler, de prendre les dispositions nécessaires pour l'éradiquer, je dirais, c'est une action prophétique de la part du Saint-Père qu'il faudrait encourager. Et essayer de divulguer ces dispositions-là à toutes nos communautés pour que des dispositions pratiques soient prises. D'ailleurs, à la sortie de la conférence, le pape a annoncé certaines dispositions pratiques en termes d'orientation, de guides qui vont être produites assez prochainement. Donc nous attendons tous ces documents-là pour travailler avec et nous permettre de mieux garantir la protection et la sécurité des enfants au sein de notre Église et au sein de notre société.
Ça veut dire que vous, vous seriez prêt effectivement à faire un signalement, comme on dit, à la justice civile si vous aviez un prêtre pédophile dans votre diocèse?
C'est à ce niveau-là qu'il faudrait prendre aussi en considération l'aspect culturel. L'approche des abus dans la société occidentale n'est pas tout à fait la même approche dans la société orientale ou dans la société africaine. Il y a certains mécanismes qui sont déjà en place qui permettent de prendre en compte aussi bien la victime, non seulement la victime en tant qu'individu, mais tout son environnement immédiat, sa famille, sa communauté, et de prendre aussi en compte le prédateur, qu'il ne faudrait pas lâcher complètement. Donc, je dis, il y a des mécanismes, des approches qui fonctionnent en Afrique. On va explorer davantage ces approches, mais en toute chose, veiller à ce que la protection des enfants soit garantie.
Oui, ça veut dire que l'approche, vous voulez dire la réponse n'est pas la même. C'est pas comme en Europe ou en France, en tous les cas, tel que c'est demandé aujourd'hui instamment aux évêques, de signaler à la justice, effectivement, le cas d'un prêtre prédateur. Vous, ça ne fonctionne pas comme ça?
Non. Les approches sont assez différentes en tenant compte du contexte culturel dont lequel vit l'Église en Afrique.
Oui, vous voulez dire que ça ne se règle pas avec la justice civile, c'est cela?
Pas nécessairement.
Comment ça se règle entre la victime, la famille et l'environnement?
Un cas, ça implique non seulement l'enfant, oui. Ça implique la famille. Pour une grande partie, la famille ne va pas s'exposer. Pour la protection de cette famille, elle privilégie une approche, je dirais, à l'amiable. Il y a des mécanismes communautaires qui sont mis en place pour que justice soit faite. On n'occulte pas la justice. Il faudrait que justice soit faite dans ce cadre communautaire qui est reconnu par tous.
D'accord. C'est-à-dire que le prêtre prédateur, par exemple, qu'est-ce qu'il deviendra?
Il y a deux niveaux. Le niveau communautaire, c'est la prise en compte de l'acte commis, une certaine réparation au niveau communautaire, mais il y a des pénalités qui sont prévues par le droit canon. Donc, ça fait deux démarches tout à fait différentes, d'accord, mais qui se complètent.
Toute la complexité de ce qui est demandé aux évêques du monde entier vient que la culture, la législation n'est pas universelle.
La législation au niveau ecclésiastique, elle est universelle à toute l'Église. Les dispositions judiciaires dans chaque pays diffèrent. L'âge, je prends le cas de la République centrafricaine. L'âge légal pour la sexualité, le mariage et autres, c'est à 18 ans. Mais culturellement, les parents marient leurs enfants à 12-13 ans. Donc, le contexte n'est pas le même. Donc, l'approche, l'appréhension, bon, si on sort du contexte culturel d'une localité, d'une communauté bien particulière, ce sera de l'aberration. C'est dans ce contexte culturel que le problème qui se pose à notre Église va être géré. On ne va pas faire appel, je dirais, à la législation française ou bien américaine pour gérer un problème situé dans un contexte culturel bien déterminé.
vu de Bangui, vu de votre diocèse de Bossangoa, comment voyez-vous vous cette crise et effectivement qui pour l'instant a atteint le nord? Est-ce que vous vous dites le sud va y venir un jour aussi, va venir à cette crise va éclater comme une bombe à retardement?
Les évêques africains l'ont dit et l'ont répété à la conférence. La question de la protection des enfants ne se limite pas uniquement à cette dimension des abus sexuels qui existe malheureusement dans notre Église, qui existe malheureusement dans notre société et dont il faut tenir compte. Mais la protection des enfants va bien au-delà. Il y a l'exploitation des enfants qui sont emmenés parfois des villages vers des villes et qui servent comme des domestiques à longueur de journée. Leur éducation est bafouée. C'est un aspect qu'il ne faudra pas négliger. Les nombreux enfants soldats qui existent dans nos communautés, ce sont des aspects qu'il ne faudrait pas négliger. Donc, il faudra faire une approche, je dirais, large, globale, de la protection des enfants. Mais nous ne sous-estimons pas la dimension des abus sexuels qu'il ne faudrait pas négliger.
Qui est un poison pour dans la tête, pour la vie et dans le corps.
Oui. Nous privilégions une approche, je dirais, holistique en ce qui concerne la protection des enfants.
Je vous remercie, Monseigneur.
Merci à vous.
Monseigneur Nestor Désiré Nongo Azagbia, évêque du diocèse de Bossangoa et président de la Conférence épiscopale centrafricaine.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Chaque année, l'AED, l'aide à l'Église en détresse, organise dans plusieurs villes de France et à Paris la Nuit des Témoins, une grande veillée de prière pour les chrétiens persécutés ou qui vivent de grandes difficultés matérielles. Au cours de ces veillées sont égrenés le nom de chrétiens, prêtres, religieuses, religieux, laïcs tués au cours de l'année. L'AED est une fondation internationale qui, par des dons, vient donc en soutien aux chrétiens confrontés dans le monde à de grandes difficultés matérielles, mais aussi à des discriminations et à des persécutions. Trois grands témoins cette année, l'archevêque de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, une religieuse syrienne, sœur Mona Aldem, et le secrétaire général de la conférence épiscopale indienne, Mgr Théodore Mascarenhas. Alors avec Mgr Fridolin Ambongo, on va commencer par un état des lieux de la situation politique, avec un président, Félix Tshisekedi, qui assoit sa légitimité au niveau international, alors que pour la CENCO, la conférence des évêques de RDC, qui avait dépêché un grand nombre d'observateurs, eh bien, les urnes avaient choisi Martin Fayoulou.
La CENCO a toujours été très claire par rapport à la situation politique issue des élections chez nous. Il est clair que les élections se sont bien passées au Congo. Le peuple s'est massivement exprimé pour un changement. Mais il s'est fait que le peuple s'est retrouvé avec un président qui n'a pas été élu, ce qui a créé une grande frustration dans la population. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, nous sommes aussi réalistes. Nous devons collaborer avec l'institution présidente de la République. Et cette institution est aujourd'hui occupée par M. Félix Tshisekedi. Nous devons composer avec lui. Mais nous constatons seulement qu'il se retrouve dans une situation pas facile. D'un côté, il y a l'accord qu'il a signé avec l'ancien régime du président Joseph Kabila. Nous ne connaissons pas les contenus. Mais d'autre part, il y a la pression du peuple. Le peuple veut de lui qu'il continue dans la ligne de son père qui s'est battu pendant des années pour plus de considération, plus de dignité pour le peuple, pas seulement pour ceux qui sont au régime et au pouvoir. Alors aujourd'hui, la grande question que nous nous posons, après l'installation du bureau du Parlement, nous connaissons déjà l'Assemblée nationale, le Sénat, ça fait déjà problème parce qu'il y a eu aussi de corruption pour le choix des sénateurs, jusqu'à ce que lui-même a bloqué la chose, ce qui est une très bonne chose, quoi. Nous ne connaissons pas encore la composition du gouvernement, quelle sera la tendance. Pour le moment, nous observons. Mais la grande question, c'est quelle sera la marge de manœuvre du nouveau président? Parce que s'il continue à soutenir l'ancien régime au nom de l'accord qu'il a signé, mais il se fera rejeter par le peuple. Mais s'il va dans le sens de l'intérêt du peuple, nous avons plutôt des inquiétudes par rapport à ses relations avec le président Kabila.
Alors, Monseigneur, le rôle de l'Église dans tout cela, l'Église, est-ce que l'on peut dire l'Église grâce à quelle les élections ont pu avoir lieu?
Jusqu'à un certain point, oui. N'eût été l'Église, je crois que les deux acquis majeurs que nous venons d'avoir maintenant, nous n'aurions jamais eu ça. Notamment la tenue des élections. Vous savez que l'Église s'est engagée. Il y a eu des manifestations de fidèles chrétiens, catholiques, avec les autres aussi, mais essentiellement catholiques. La marche de CLC, vous vous en souvenez, avec des gaz lacrymogènes. Il y a eu des morts dans nos églises. Tout ça, ça a permis que les élections puissent avoir lieu. Et là, nous sommes contents, nous sommes fiers que le sang de nos fidèles ont permis cette avancée. Deuxièmement, le président Kabila, qui voulait un troisième mandat, n'a pas pu l'obtenir. Et nous avons quand même obtenu ce qu'on peut appeler une alternance démocratique sans effusion de sang pour la première fois au Congo. Donc l'Église catholique a de quoi être fière.
Quel va être son travail aujourd'hui? Vous, jusqu'ici, c'était les élections, la tenue des élections. Aujourd'hui,
l'Église va continuer sa mission. Parce que la mission de l'Église, c'est une mission d'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est apporter la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ à l'homme et à tout homme, tout l'homme. Aussi longtemps que le peuple congolais n'accédera pas à plus de dignité comme Dieu le veut, l'Église va continuer à jouer son rôle, à accompagner son peuple.
L'évangélisation, c'est aussi, Monseigneur, semble-t-il, pour l'Église catholique de RDC, apporter de la vertu dans la gouvernance.
L'Église est au service de la vérité. Et un pouvoir qui travaille pour l'intérêt du peuple doit s'appuyer sur des valeurs. Ce qu'on appelle des valeurs fondamentales, notamment la vérité, la justice, le respect de la personne humaine, la dignité de la personne humaine. Nous, nous travaillons pour ça. Or, dans le contexte du Congo, aujourd'hui, toutes ces valeurs sont balayées des revers de main. Et tant que les tenants du pouvoir se comporteront de cette manière-là, l'Église va continuer son accompagnement du peuple pour que ces valeurs soient reconnues et respectées dans notre pays.
Vous rappeliez dans la conférence de presse que l'Église aujourd'hui, c'est plus de 50% des lieux de soins en RDC et à peu près la même chose pour les écoles.
L'Église a toujours joué le rôle de substitution parce que nous vivons dans un pays où l'État pratiquement a fait faillite, notamment dans les services à rendre à la population. Alors l'Église s'est impliquée, pour ne pas abandonner la population, à jouer la suppléance dans le domaine de l'éducation, de la santé, mais aussi le développement rural. Nous faisons des routes, nous faisons un peu du tout. Et dans certains endroits, c'est l'Église seulement qui est là. Au cœur de la forêt, en brousse là, c'est l'Église. Nous le faisons au nom de notre foi en Jésus-Christ. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui souffrent. Nous ne pouvons pas prétendre leur annoncer les saluts apportés par Jésus-Christ et le laisser dans cette situation de sous-humanité.
Un état des lieux de la République démocratique du Congo aujourd'hui, l'insécurité, absence de route, quel est l'état des lieux?
La situation est plutôt dramatique chez nous, parce que depuis des années, l'État a démissionné devant ses responsabilités. Ainsi, tout tombe en ruine. Nous venons de l'intérieur. Moi, avant d'arriver à Kinshasa, j'ai été évêque de Bukungu-Ikela pendant pratiquement 12 ans. Pendant que j'étais évêque de Bukungu-Ikela, j'étais aussi administrateur apostolique du diocèse de Kolé, au cœur de la forêt. Mais j'ai fait la pastorale à Kolé essentiellement en moto, parce qu'il n'y a pas de route. Les ponts ont disparu depuis les guerres des années 70. Les écoles, bon, on appelle école parce qu'il y a un enseignant qui se tient, mais il n'y a pas de bâtiment. Et ne parlons même pas d'outils scolaires, il n'y en a pas. Les enfants parfois écrivent sur le sol. C'est des situations qui nous renvoient à notre propre conscience des pasteurs. C'est pourquoi nous essayons de suppléer avec le moyen que nous pouvons obtenir pour la santé, pour les écoles, pour les routes. Nous faisons un peu du tout à l'intérieur. La question maintenant, c'est que la politique a pris une telle proportion au Congo. Tout le monde pense que pour gagner de l'argent et gagner vite de l'argent, il faut aller dans la politique. Parce que tout est politisé au Congo. Beaucoup pensent même que ce n'est pas nécessaire de réussir dans la vie, il suffit d'aller dans la politique, même s'il ne connaît rien. Et je crois que là, nous sommes en train de tuer l'avenir de notre pays. Notre travail, c'est aussi accompagner la classe politique. C'est pour cela que nous avons ouvert une faculté de sciences politiques dans notre université catholique de Kinshasa pour enseigner à la nouvelle génération comment faire la politique sur une base éthique. La politique doit s'appuyer sur un idéal éthique. Et l'idéal éthique est essentiellement un idéal humain. La valeur de la personne humaine. Donc nous travaillons beaucoup dans ce domaine-là et nous espérons que si les choses ne se gâtent plus, ne nous ramènent plus en arrière, que nous puissions sortir petit à petit de cette situation de crise pour que le peuple congolais puisse enfin vivre et vivre digne.
Est-ce que vous voyez des hommes politiques être sensibles aujourd'hui, être sensibles à la question de ce que l'on appelle le bien commun?
Les derniers gestes du président, le nouveau président Félix, bousculent quand même les habitudes qu'on avait jusque-là au Congo.
Vous pensez à quel geste? La libération des prisonniers?
Bien sûr, il a déjà libéré des prisonniers, conformément au dernier volet de l'accord de la Saint-Sylvestre qui parlait de la décrispation. Ça, il l'a fait. Le deuxième signe positif, c'est que l'élection des sénateurs a été marquée par une corruption comme on n'a jamais vu. Et il a bloqué que ces sénateurs qui ont été élus dans ces conditions-là ne commencent leur fonction. Alors, ça a suscité quand même dans la population une sorte de réaction, un dynamisme, une dynamique positive contre la corruption. Et maintenant, on commence à dénoncer les corrupteurs et les corrompus. C'est quand même des choses qui évoluent dans la bonne direction.
Dans le même temps, vous dites finalement, le drame de la RDC, c'est d'être assis sur un sous-sol extrêmement riche. Et de ce fait, c'est un des pays les plus pauvres du monde.
C'est le paradoxe du Congo. Un pays immensément riche, avec une population extrêmement pauvre. Tout simplement parce que les dirigeants de notre pays se comportent non pas comme des hommes politiques qui sont là au service d'un peuple, au service d'une nation, mais ils se comportent comme des prédateurs. Et comme des prédateurs, évidemment, ils se soucient uniquement de leurs intérêts économiques, des intérêts individualistes. Et tout ce qu'ils gagnent, ils virent sur leur compte en Occident ou au Panama là-bas, et le peuple est complètement abandonné.
Là, vous interpellez les grandes puissances également.
Bien sûr, parce que bon, la situation du Congo, c'est une situation extrêmement complexe. Nous ne pouvons pas seulement viser ceux qui sont là au pouvoir, parce que nous savons que les dirigeants chez nous sont plus des gouverneurs au service des grands chefs qui sont ailleurs et qui ne sont pas toujours visibles. Nous savons aussi que depuis quelques années, la Chine joue un rôle très important en Afrique, surtout avec l'apport des finances dans l'exploitation de ressources naturelles. Tout ça, ça crée des tensions entre l'Occident, la Chine, la Russie, etc. Et nous payons un peu tout ça aussi.
Le sous-sol vous échappe complètement ou vous êtes encore propriétaire de votre sous-sol, partiellement?
Il y a un code minier au Congo qui a été signé tout de suite après la guerre. Ce code minier a été dicté pratiquement par les grandes compagnies minières. qui avait donné de moyens à Kabila père de faire la guerre. Sekou Doumbouya a été jugé injuste et tous les contrats qui ont été signés pendant cette période étaient des contrats léonins. Sous la pression de l'Église et sous la pression de la société civile, le pouvoir s'est senti obligé de renégocier le contrat, le code minier. Il y a un nouveau code minier qui est sorti. Du point de vue de l'intérêt du Congo, c'est beaucoup mieux. Et là, quand même, nous disons merci au président Kabila qui a pu le faire. Ce qui a déplu à certaines grandes compagnies minières. Mais nous pensons que le code minier qui est là protège quand même mieux l'intérêt du Congo.
Comment peut-on expliquer, Monseigneur, que cette Église du Congo soit si, alors j'allais pas dire politisée, hein, mais se comporte depuis de longues années en vigile? Vous êtes extrêmement préoccupé, bien sûr, de vos fidèles et du pays en général, mais au Congo, il y a une particulière, j'allais dire, un particulier investissement de la part de l'Église. Comment l'expliquez-vous?
C'est par la force des choses. Nous sommes au Congo dans un pays où le pouvoir n'a jamais pris en compte l'intérêt de la population. Nous nous sommes trouvés devant un peuple abandonné. Et dans notre mission, nous n'avions d'autre choix que de nous occuper de notre peuple. C'est pratiquement depuis l'indépendance que l'Église du Congo agit de cette manière-là. Peut-être demain, quand le pays redeviendra normal, l'Église va aussi redevenir normale dans son rôle purement spirituel. Mais pour le moment, nous prenons l'homme congolais comme un être global. Il est à la fois esprit, il est aussi corps. Et tant que le corps sera maltraité comme nous voyons aujourd'hui, l'Église ne peut jamais dormir en paix.
Et vous ne pouvez pas dormir en paix non plus en tant qu'archevêque de Kinshasa. Votre nouvelle fonction, depuis le mois de novembre 2018, comment l'envisagez-vous, cette fonction d'archevêque de Kinshasa?
Je prends cette responsabilité avec beaucoup d'humilité. Moi, j'ai remplacé un cardinal, Monseigneur Laurent Monsengo, qui était connu mondialement, qui a beaucoup fait pour le pays. Évidemment, tout le monde me compare à lui. Ça, c'est quand on remplace un grand homme, c'est toujours comme ça.
Ça vous est désagréable?
Bon, pas vraiment. Je crois que c'est normal. Les hommes fonctionnent de cette manière-là. Mais ce que nous partageons en commun avec le cardinal Laurent Monsengo, c'est notre passion pour notre peuple. Et de ce côté-là, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de différence entre lui et moi. Parce que nous partageons la passion de notre peuple.
Une passion vissée au corps.
Ça fait partie de mon éducation, ça fait partie de mon combat depuis que je suis devenu prêtre et encore davantage comme évêque, surtout avec mon passage à la tête de la commission Justice et Paix.
Est-ce que l'on peut dire que, finalement, que l'épiscopat congolais, c'est un épiscopat de résistants?
C'est un épiscopat qui a pris parti pour le peuple. L'Église n'est pas pour le pouvoir, ni pour l'opposition, mais l'Église est pour le peuple. Et tant que le peuple est dans cette situation d'abandon, l'Église ne peut que jouer le rôle qu'ont joué dans le passé d'Israël les prophètes. L'Église doit hausser le ton. Et quand l'Église hausse le ton, ceux qui sont au pouvoir la considèrent comme de l'opposition. Mais bon, c'est ça le rôle de prophète.
Je vous remercie, Monseigneur. Merci.
Merci.
Monseigneur Félix Ambongo, archevêque de Kinshasa. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Myriam Guillot, Olivier Raoul vous souhaitent une bonne semaine.